Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi où l'on travaille notre summer body à base de discussions et d'arguments. Si vous cherchez un endroit pour faire mincir votre esprit critique, eh bien passez votre chemin malheureux. Ici, on aime la discute. Alors choisir sa plateforme de streaming, c'est pas simple, hein. Netflix, Amazon Prime, Disney+. Et si vous optiez pour NASA+, eh ben oui, l'agence spatiale américaine va prochainement lancer sa plateforme pour visionner gratuitement des programmes. Une preuve de l'engouement du public pour ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Et en effet, comment résister aux photos envoyées par le télescope James Webb, hein, au fin fond de la galaxie, comme la naissance d'une étoile similaire au Soleil. C'est incroyable. Et Thomas Pesquet, fascinant de se dire que l'aventure existe encore dans un monde aux pieds bien posés sur Terre. L'espace est de retour et n'a pas fini de nous envoyer en promenade sur l'ultime frontière. Désormais, on parle de retour sur la Lune en 2025, mais ce sera qui ? Alors, les États-Unis ou la Chine ? Pékin mise aussi sur notre satellite pour asseoir sa puissance. D'ailleurs, la conquête spatiale risque de connaître un bel embouteillage, car les Coréens veulent aussi en être, tout comme les Émirats Arabes Unis et bien sûr l'Europe, hein, qui aimerait jouer un rôle, à moins que ce soit Elon Musk et son SpaceX privé, alors que le ciel compte tellement de satellites que l'on se demande comment on va pouvoir nettoyer avant que ça pose un vrai danger en cas de collision. Vous imaginez ? Plus de GPS et dire que moi déjà je me perds dans la maison de la radio. Aujourd'hui, on parle du retour de la conquête spatiale. N'hésitez pas à nous faire partager vos avis via vos notes vocales et messages sur l'appli France Inter, mais également par WhatsApp, hein, parce que ça marche aussi si vous êtes un extraterrestre. Et WhatsApp, c'est le numéro 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. On attend vos commentaires. Voilà, le débat de midi, décollage est bien imminent.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et pour en parler de ce retour de la conquête spatiale, nous recevons Isabelle Surbès-Verger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace et des politiques spatiales. Et à ce sujet, vous sortez un livre le 24 août prochain intitulé bah, tout simplement géopolitique du monde spatial. Hein. C'est aux éditions Hérode. Également, Hervé Poirier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du magazine Epsilon, magazine scientifique, le hors-série Les Voyages d'Epsilon, justement. Eh bien, c'est dans la Lune, les coulisses du grand retour, délire sur la face cachée, les sites touristiques incontournables. Voilà, déjà, c'est un site, en effet, un guide pour partir, hein, déjà, sur notre satellite naturel.
Un petit guide de voyage.
Voilà, tout simplement. Voilà, si vous cherchez encore une destination pour vos vacances, eh bien, c'est à acheter, bien sûr, le hors-série Epsilon. Et puis Michel Tonini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien astronaute français, aujourd'hui directeur du Centre européen des astronautes. Et alors bon, faut toujours le signaler parce que c'est ça qui est toujours impressionnant. Vous faites partie de ces rares personnes qui avaient été dans l'espace avec la station spatiale russe Mir. C'était en 1992 et avec la navette américaine Columbia en 1999. Vous avez publié avec Hélène Courtois, explorateur de l'espace, voyage aux frontières de l'univers. L'espace, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant, dites-vous. On va justement en parler de ça. Mais juste avant, Hervé Poirier, justement à propos d'Epsilon, je parlais de retour pour la chose spatiale, pour l'intérêt spatial. Est-ce que vous aussi, vous l'avez constaté ?
Oui, on l'a constaté, même si il y a plusieurs transcendances qui sont en concurrence. La transcendance de l'espace, dans les années 50, était très présente, c'est-à-dire qu'on y voyait la perspective infinie. Aujourd'hui, il y a d'autres transcendances que nous, à Epsilon, on s'intéresse, la transcendance de la botanique, la transcendance de la forêt, la transcendance de l'écologie. Mais depuis quand même... Il y a eu un trou dans les années 80, sans doute, 90, mais avec sans doute les images de Hubble qui ont redonné à l'imaginaire une grande matière, les incroyables images de gaz, de planètes en formation, de soleil qui se forment. Et il y a eu aussi quand même un événement clé, c'est sans doute en 95 la découverte des exoplanètes qui a enrichi l'imaginaire du grand public d'une infinité d'autres mondes. Et il me semble, en tout cas Elsa de Smet, qu'on a interrogé pour ce hors-série dans la Lune, souligne ce retournement Hubble des images gratuites, produites avec des millions et des millions de dollars, mais données gratuitement. Un bonheur pour les journalistes. Et des nouvelles perspectives, des nouveaux objets pour enrichir notre imaginaire, ça fait dans le grand public, indépendamment aussi de tous les... On va en parler de tous les enjeux industriels, scientifiques. Dans l'imaginaire, il y a eu un retour en grâce de l'espace avec ces nouveaux objets, ces nouvelles images et ces nouveaux personnages aussi. Comme
ça, on va en parler. Alors Isabelle Surbès-Verger, est-ce que vous avez l'impression aussi que tout simplement, eh bien, les agences spatiales savent mieux communiquer qu'auparavant ?
Alors, certainement, les agences spatiales bénéficient en tout cas de nouveaux moyens et tous les réseaux sociaux ont bien montré avec Thomas Pesquet quel était leur effet multiplicateur parce que je dirais que les astronautes, spationautes, cosmonautes, puisqu'en fait...
taïkonautes
pour non. les Européens, pas encore.
Pas
mais,
encore.
mais pour les Européens, il y avait quand même les différentes versions. Précédents avaient aussi publié des photos, avaient aussi fait des interviews, etc. Mais on ne pouvait pas les suivre au jour le jour. Et ça, ça a été la grande différence qui a rendu Thomas Pesquet ou Tim Peake un petit peu avant en Grande-Bretagne. C'est l'équivalent, si vous voulez, britannique de Thomas Pesquet, qui est un petit peu antérieur. Et du coup, ça leur a donné une assise nationale. Mais je dirais qu'il y a quand même aussi un autre facteur. Et là, vous êtes directement concerné, c'est le monde médiatique. C'est-à-dire qu'effectivement, les journalistes, à un moment, ont choisi de se réintéresser eux-mêmes à l'espace avec des grilles de lecture qui sont parfois d'ailleurs un petit peu décalé, parce que vous allez reprendre une grille de lecture géopolitique, une grille de lecture... On va reparler de la course à l'espace,
bien sûr.
Alors que c'est peut-être plus vrai, mais ça fait rien. Ça aussi, c'est un imaginaire qui est resté mobilisé. On va parler effectivement de ces nouveaux entrepreneurs, et là on a l'impression de faire passer l'espace dans la modernité. Donc si vous voulez, je dirais que c'est vraiment une convergence entre un intérêt réel du public pour l'astronomie, et l'astrophysique, plus que réellement les activités spatiales, hein, c'est qu'une petite partie, ces activités scientifiques, les usages répétés, et la familiarité avec l'espace qu'on a dans les usages quotidiens, et les réseaux sociaux, et puis, de temps en temps, un surcroît d'intérêt médiatique porté aussi par les agences. Et vous le dites, la NASA en particulier.
C'est ça, la NASA a compris vraiment comment communiquer. Je vous invite à aller sur leur site et voir en effet le nombre de programmes proposés par la NASA, notamment sur sa chaîne YouTube. C'est assez impressionnant. On l'a vu aussi, l'intérêt médiatique, je pense. Toutes les rédactions ont un petit peu véritablement vu aussi se faire au moment de Philae, hein, lorsqu'il y a eu cette navette partir à travers l'espace qu'on pouvait suivre finalement de très près. Mais Michel Tognini, vous qui avez volé à la fois avec... donc les Russes et les Américains. On va parler de la Russie dans un instant quand on abordera le côté géopolitique. Mais est-ce qu'à un moment, il y a eu un désintérêt aussi avec la chose spatiale quand il y a eu la fin de l'URSS, tout simplement, quand il y avait un acteur en moins?
Non, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que nos affaires n'ont pas toujours intéressé le public. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de clarté grâce aux réseaux sociaux et grâce à nos nouveaux astronautes sélectionnés en 2008 comme Thomas Pesquet et les 6 autres, sur lesquels on a fait intervenir les réseaux sociaux de façon très sérieuse, parce qu'on a embauché les meilleurs youtubeurs de chaque pays pour faire la diffusion de toutes les images qu'ils avaient. Et Pesquet donc faisait des images le week-end, mais ces gens-là diffusaient régulièrement tous les jours. Mais aussi, ce qui est important, ce qui est comme changement, c'est qu'on a une feuille de route qui est beaucoup plus claire. Avant, les gens disaient, vous êtes dans l'espace, mais à quoi ça sert? Alors que maintenant, on dit, on va dans l'ISS, la station internationale, pour préparer les voyages vers la Lune. On va vers la Lune pour préparer le voyage vers Mars. On va vers Mars pour éventuellement un jour intercepter un astéroïde ou bien pour chercher d'autres énergies nécessaires à la Terre et aux terriens.
Ça, c'est nécessaire, mais un dernier point d'histoire. Lorsque Barack Obama, en 2010, on voit la NASA n'est pas au mieux et dit clairement on va commencer à privatiser. C'est là où on parle le SpaceX d'Elon Musk. Tout le monde se demande, tiens, si la NASA ne va pas fermer. Est-ce que là aussi, on s'est dit, maintenant on ne s'intéresse qu'aux choses rationnelles sur la Terre ferme et que l'espace pouvait à un moment aussi ne plus du tout intéresser?
Alors la NASA a eu une période difficile, hein, quand j'y étais d'ailleurs à la NASA, quand j'ai volé, c'était difficile, mais tout est remonté, non pas à la NASA, mais aux États-Unis grâce à Elon Musk, grâce à Bezos, grâce à ces privés qui ont investi leur temps, leur argent personnel pour faire fructifier des lanceurs plus économique.
Oui, c'est ça, Poulier, région.
Oui, je dirais, quand vous dites on va privatiser, je crois que c'est pas tout à fait ça. Ça fait très longtemps qu'aux États-Unis, dès le milieu des années 1980, vous avez Reagan qui commence à vouloir faire de la commercialisation de l'espace. Et ça met très longtemps aux États-Unis, finalement, à ce que des individus privés se décident à mettre leurs propres moyens. Parce que des grands industriels du monde privé, Boeing, Lockheed, McDonnell Douglas, etc., etc., ce sont les fleurons de l'industrie américaine. Donc, ils existent bien et sont des acteurs privés comme les autres. L'originalité, ça a été finalement une certaine banalisation, entre guillemets, des technologies spatiales et la possibilité, finalement, de faire du spatial autrement. Et c'est là qu'Elon Musk a été un acteur de rupture. Mais véritablement, on rentre dans ce modèle américain où l'argent public doit servir tôt ou tard à enrichir des entrepreneurs privés. Et l'économie et la grandeur des États-Unis, c'est aussi cette économie industrielle.
Hervé Poirier.
Et alors bien sûr, il y a les grands rêves d'avancées scientifiques, il y a les grands enjeux politiques, mais une des ossatures du retour de la reconquête spatiale, c'est quand même des enjeux industriels et financiers majeurs qui ne se passent pas sur la Lune, qui ne se passent pas sur Mars, qui se passent dans l'orbite basse, où il faut se rendre compte quand il y avait...
Qu'est-ce que c'est l'orbite basse?
L'orbite basse, c'est autour de 200-300 kilomètres.
D'accord.
Et il faut se rendre compte, il y a eu à peu près 1000 satellites lancés entre 78 et 2018, entre 70 et 2018, disons, par l'ensemble des acteurs étatiques. On en prévoit 60 000 dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est colossal. Et c'est d'abord...
Mais pourquoi faire? Pourquoi on en lance autant, en fait?
Principalement, c'est pour la communication, l'Internet par satellite. Mais Elon Musk a annoncé avant-hier que la moitié des satellites actuellement en orbite qui sont exploités appartiennent à Elon Musk. Bezos, qui est un peu en retard.
Jeff Bezos,
le patron d'Amazon, est en train d'accélérer la cadence pour ne pas se faire damner le pion. Mais donc, le vrai enjeu, un des gros enjeux industriels financiers, c'est pas tant la Lune, c'est pas tant Mars, c'est d'abord et avant tout pour ces industriels qui ont investi massivement dans des fusées, c'est atteindre l'orbite basse pour maîtriser une infrastructure cruciale du monde géopolitique, du monde industriel, du monde de la communication dans les années qui viennent, c'est la maîtrise de la communication par l'orbite basse. Donc il y a derrière le grand rêve de voir des étoiles naître, des gaz magnifiques, il y a de l'argent sonnant et trébuchant, et c'est Bezos et Musk viennent du monde numérique, et c'est à la fin l'espace, c'est des enjeux numérique.
On va reparler des satellites dans un instant, mais Michel Tonigny, est-ce que vous évoqueriez encore aujourd'hui le terme de conquête spatiale, comme ça l'a été auparavant dans les années 60, 70, quand on parlait de conquête? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que c'est une conquête?
Alors moi j'aime pas le mot conquête, ouais. Je préfère le mot quête de savoir. On va là-bas pour apprendre. On va pour apprendre, par exemple, sur le corps humain, comment le corps est modifié du fait qu'ils l'ont zérogé, quelles sont les modifications, pourquoi on fait de l'ostéoporose réversible, pour que le cœur change de place, pourquoi il change de forme. Tous ces phénomènes d'adaptation sont très importants au niveau médical, et également les transformations psychologiques pour préparer les voyages lointains pour aller sur Mars. Donc on y va pour savoir la composition de la Lune, pour savoir pourquoi la vie a disparu sur Mars, pour savoir pourquoi l'atmosphère a disparu sur Mars, pour éviter que ce phénomène se reproduise sur la Terre. Donc on est plus dans la quête de savoir, même si en maille de fond, il y a quand même le combat des pays avec qui va se poser sur la Lune en premier entre les Chinois et les Américains, les Russes qui interviennent toujours. Dans la station spatiale autour de la Lune, il y a toujours... Malgré la guerre, il y a toujours un module lunaire.
Ça paraît russe. Toujours étonnant, ça. Hein.
Aujourd'hui, dans l'ISS, on coopère avec Russes et Américains. À chaque lancement russe, il y a un Américain. À chaque lancement américain, il y a un Russe. Donc, oui, il y a quand même plein de choses qui viennent se tisser sur ce milieu spatial, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la seule façon de communiquer entre Russes et Américains, c'est au niveau spatial. Et ça marche bien.
Et pourtant, Isabelle Surbès-Verger, on le voit, pour qu'il y ait autant d'acteurs spatiaux. Alors, bien sûr, il y a de l'argent en jeu, il y a de l'économie. Mais on voit encore que l'espace, de temps en temps, on a l'impression de revenir comme on était dans les années 50. Ça reste tout de même une volonté, c'est là où on montre sa puissance aussi. C'est là qu'on arrive à conquérir, c'est pour ça que je reprends ce terme de conquérir. Il y a eu le premier homme par les Soviétiques, après il y a eu la Lune par les Américains. Chacun a voulu marquer comme ça, et là on est encore dans cet état d'esprit. Par exemple, quand les Chinois vont dans l'espace, c'est pour dire qu'ils sont plus forts.
Alors, moi non plus, je n'aime pas le terme de conquête, et je crois que finalement, personne ne l'aime. Il est juste extrêmement pratique. Mais il y a des mots comme ça dont il est difficile de se passer. Le mot d'occupation de l'espace, c'est pas un très bon mot, mais je l'utilise. Le mot de colonisation de la Lune, c'est pas un très bon mot, et on l'utilise aussi. Et je crois que ça traduit la difficulté qu'on a à penser le milieu spatial autrement que comme une projection de l'activité terrestre. Ça, je pense que c'est le premier point. On pourrait dire ça aussi de la guerre dans l'espace, sur lequel on pourrait disserter longuement, parce que je pense que là encore, il y a un certain nombre d'images qu'on projette qui ne sont pas très exactes. Je ne sais pas si c'est de la démonstration de puissance, pour revenir à votre question. Je pense que c'est plus de l'image international. C'est-à-dire que, en réalité, oui, il y a des stratèges américains qui disent qui tient la Lune, qui tient les points de Lagrange, tient la Terre en son pouvoir, etc., etc. C'est pas directement vrai, c'est pas ça la question. La question, c'est que vous apparaissez comme une puissance qui a une image de modernité, une image de projection dans le futur. Et par exemple, les Émirats Arabes Unis ont très bien joué cette carte au moment de leur mission autour de Mars, alors qu'en fait, les Émirats Arabes Unis ne peuvent pas être considérés stricto sensu comme une puissance spatiale. Ils n'ont pas de lanceurs, ils n'ont pas de base de lancement, ils n'ont pas d'industrie spatiale. Ils ont juste fait une très belle mission en coopération avec les Japonais et les Américains.
Voilà, ils ont tiré en effet depuis le Japon. Voilà, ça a été tiré depuis
c'est le Japon qui a tiré. Ils n'ont pas tiré depuis le Japon, c'est le Japon qui a tiré. Et de la même façon, ils devaient se poser sur la Lune avec la mission japonaise qui a échoué il y a quelques mois, qui était d'ailleurs elle aussi une mission privée. Donc si vous voulez, il y a cette image internationale et ce rebondissement médiatique qui joue et qu'on retrouve. Mais il y a des pays dont on ne parle pas beaucoup et qui ont aussi voulu participer à ces entreprises privées qui étaient avec Google Prize, qui étaient lancées par les États-Unis. Vous avez eu les Israéliens qui ont aussi essayé de poser un petit rover sur la Lune, ça a échoué. C'est difficile, les missions spatiales. Ouais. Et l'expérience, ça s'acquiert un peu à travers les échecs. On l'a bien vu pour tout le monde. Alors la Chine, quand je finis juste sur la Chine, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où la Chine, elle intègre ça dans cette nouvelle notion de rêve chinois et c'est une composante parmi d'autres.
Un mot, Hervé Poirier, le fait qu'il y ait autant d'acteurs privés pour l'espace, c'est un problème ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, on le voit en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'autant de satellites appartiennent à Elon Musk, on peut se poser la question, on se dit sur la décision d'un homme, l'espace peut être privatisé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, en effet, on va arriver vers une privatisation de l'espace?
Pour l'orbite basse, ça pose des vrais problèmes, pour les grandes agences, des problèmes de débris, des problèmes de collision. C'est un espace qui n'a pas de loi claire, donc c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc une fois que les satellites sont en place, la place est prise. Donc il y a un vrai enjeu, collectif international de législation sur l'orbite basse, mais c'est presque trop tard. Dans les 10 ans à venir, l'orbite basse sera pleine. Sur la privatisation de cet espace en orbite basse, ça pose des vrais problèmes. Après, la NASA a grandement profité de l'habileté des entreprises privées pour aller plus vite, pour imaginer des choses que la NASA ne pouvait pas imaginer, des lanceurs réutilisables, ce qui a totalement changé la donne. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de réfléchir, de se réorganiser, pour voir dans les enjeux aussi d'image, comment est-ce que l'Europe peut redevenir une autonomie, une puissance spatiale, pour aussi montrer aux autres puissances qu'elle est toujours là pour le 21e siècle.
Isabelle Sopas-Verger, vous vouliez réagir?
Je dirais les choses un petit peu différemment. Elon Musk, il occupe l'orbite basse avec ses satellites parce que les États-Unis le veulent bien. C'est-à-dire qu'il a l'autorisation l'organisation fédérale qui donne des communications, qui lui donne l'autorisation, et l'ensemble des activités spatiales sont toujours rapportées au pays lanceur. Donc en fait, les États-Unis sont responsables de l'activité d'Elon Musk. Et quelque part, dans les négociations internationales, c'est pas Elon Musk qui est présent, ce sont les États-Unis. Et c'est cette volonté américaine de conforter son activité spatiale avec des acteurs commerciaux qu'elle compte utiliser, y compris sur le plan militaire, parce qu'on voit bien les dernières affectations du département de la défense qui vont donner de l'argent à Elon Musk pour pouvoir aussi utiliser ses plateformes comme espèce de système de secours, et puis surtout avec cette idée que si un jour les systèmes spatiaux américains étaient attaqués, il y aurait aussi les systèmes commerciaux qui pourraient servir. Donc là, je pense que... et l'espace n'est pas sans loi. Mais il est vrai, je suis bien d'accord avec vous, qu'il y a des trous dans lesquels on peut se glisser. Mais c'est aussi cette hégémonie américaine, Elon Musk, ce qui montre. Et en réalité, c'est véritablement une stratégie politique et économique. C'est pas un homme tout seul qui est arrivé comme ça et qui a dit je vais faire du spatial.
On va continuer à parler de l'espace dans un instant et notamment aussi au niveau géopolitique. Mais avant ça, on va s'écouter un peu de musique avec Forever Pavot dans la voiture. You.
débat de midi. Sur France Inter.
Le débat de midi, on s'élève un peu à midi 26 sur France Inter, on parle de conquête spatiale, véritable engouement de nouveau de la part du public, mais également eh bien, des États et des gouvernements, on va le voir ça dans un instant. Vous pouvez bien sûr participer en nous joignant vos notes vocales et messages via l'appli France Inter, et également eh bien, nous joindre par WhatsApp au numéro 07 64 13 70 07 07 64 13 70 10-07. Alors forcément, quand on parle conquête spatiale, on a pas mal parlé déjà des États-Unis, on aurait pu parler à un moment eh bien, de la Russie également, qui sont les acteurs, on va dire, historiques, mais tout de même, un mot aussi, Michel Tonini, qui est vous-même ancien astronaute français, vous avez volé avec les Russes comme les Américains. Juste un petit mot, une petite parenthèse par rapport à la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, l'invasion russe, le fait qu'on ait coupé aussi toute communication avec la Russie, est-ce que ça ralentit justement les programmes spatiaux et tout ce qu'on avait mis en place avec Moscou justement ?
Alors au début de la guerre, tous les programmes scientifiques ont été arrêtés. Par exemple, Soyouz à Kourou a été arrêté. L'équipe des Russes qui était à Kourou est repartie chez eux. Le projet qu'on avait en collaboration sur Mars également a été arrêté aussi. Par contre, les vols habités, ça continue. D'accord. Non seulement ça continue, parce que il faut un double moyen d'aller dans l'espace. C'est-à-dire que on a le Soyouz et le SpaceX Crew Dragon qui va dans l'espace aujourd'hui. Donc à chaque décollage d'un lancement américain, il y a un Russe avec eux, et à chaque décollage d'un Soyouz, il y a un Américain. Et là-haut, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on peut imaginer, les deux belligérants sont du même côté de la ligne de front dans l'espace.
Mais oui, donc, ça paraît étonnant aujourd'hui.
On doit céder parce que l'espace est difficile, parce que c'est un espace qui est hostile. Et donc, comme on est tous les deux du côté hostile, on doit s'entraider. Et c'est ce qu'ils font et ça marche bien. Bien sûr, je vous dirais que le soir, pendant les repas du week-end, on va éviter les sujets qui sont difficiles, parce que je sais que les Américains n'aiment pas du tout cette guerre en Ukraine. Et les Russes sont vraiment embarrassés d'expliquer ce qui se passe réellement.
Bien sûr, voilà, ça se passe actuellement donc dans l'ISS. En effet, oui. il y a un équipage américain et un équipage russe qui actuellement au-dessus de nos têtes, cohabitent. Hein, ça paraît.
Et même ukrainien. Il y a un atterrissage récemment qui s'est fait avec un Soyouz dans lequel il y avait un ukrainien, un russe et un américain.
Voilà, en effet, on imagine la chose. Alors un mot aussi, Michel Tonini, pour avant qu'on parle géopolitique, sur, je parlais tout à l'heure de l'engouement du public, et on a vu aussi véritablement un engouement pour devenir astronaute, hein, puisque c'est l'Agence spatiale européenne, il y a 2 ans, qui disait qu'on avait battu des records,
oui.
Aussi bien alors pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Cet engouement, il est dû à quoi justement alors ? Par cette communication, par Thomas Pesquet, par le fait qu'aujourd'hui ça soit devenu tendance, l'espace ?
Parce que c'est une profession qui est attirante, parce que les jeunes disent ben, pourquoi pas, je vais essayer. Ça, les gens rêvent de l'espace, ils disent ben, tentons notre chance. Et puis nous, on a aussi travailler derrière pour leur dire, écoutez, vous pouvez être astronaute, et au pire des cas, si vous n'êtes pas astronaute, vous ferez une carrière dans l'espace. Donc il y a beaucoup de gens qui font des carrières en 2 fois. Ils vont par exemple commencer à être ingénieur spatial, puis devenir après astronaute.
D'accord.
Le cas de Pesquet, bon, c'était la sélection, il y avait 8000 candidats. Aujourd'hui, dans la sélection que nous avons faite là récemment, il y avait 22 000 candidats. Donc c'est quand même pratiquement trois fois plus de candidats, la plupart étant des Français. Donc merci à Pesquet.
Alors Hervé Poirier, on voit en effet, beaucoup de puissances. On en parlait tout à l'heure. Donc, bien sûr, les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine. On parlait aussi étonnamment des Émirats Arabes Unis qui voudraient jouer dedans. Il y a la Corée du Sud. Et puis, bien sûr, il y a l'Europe dedans. Si on devait chercher un trophée, finalement, dans l'espace, que voudraient accrocher toutes ces puissances, c'est quoi ? C'est de monter une base sur la Lune, c'est ça ? Aujourd'hui, le trophée ?
Bah, la Lune, c'est quand on regarde le ciel, c'est ce qu'on voit d'abord. C'est la présence matérielle qui est... Donc c'est évidemment le premier spectacle spatial. Donc le drapeau américain posé sur la Lune reste quand même sans doute un des plus beaux trophées jamais fait par l'humanité. Donc évidemment que la fierté d'un pays qui se veut pionnier du monde, l'avoir fait, c'est une réussite exceptionnelle. Et évidemment, la Chine rêve de cette image pour célébrer en 2029 de voir un taïkonaute qui plante un drapeau rouge sur la Lune.
Taïkonautes, il faut bien le dire, c'est l'autre nom, hein, en effet, des voyageurs de l'espace chinois. Hein, voilà, il y a cosmonautes, astronautes, spationautes et taïkonautes. Voilà.
Et moi, j'étais quand même très impressionné par, dans mon imaginaire, d'imaginer que la Chine a été le premier à aller dans la face cachée de la Lune, qui est un endroit... Ouais. Incroyablement fantasmatique. On n'a pas vu les bases cachées de Gold, des ennemis de Goldorak. Ou c'est un endroit de l'imaginaire incroyable. Et c'est quand même un trophée dans l'imaginaire, donc c'est très politique. On est impressionné aujourd'hui par la Chine qui, depuis le début du programme spatial, dit très peu de choses, mais fait tout ce qui est dit sans jamais de retard. Et les Américains, ils sont presque, enfin, et on est presque tous convaincus qu'en 2029, oui, la Chine va y arriver. On les a jamais vus en retard jusqu'ici.
Qui semble douter en effet de vos propos, mais justement, on va en parler dans un instant de ça, de la Lune. Mais pour vous, quand on parle de nouvelle guerre froide spatiale, est-ce que c'est le cas pour vous, Isabelle Schoenberger? Est-ce qu'on est dans une guerre froide comme on l'a vu entre Américains et Soviétiques aujourd'hui?
Absolument pas. On n'est pas dans une guerre froide objectivement. On va le lire parce que c'est pratique, mais c'est pas comme ça. Et la preuve, c'est que dans l'ISS, vous avez des Russes, des Ukrainiens, des Européens, et il n'y a pas de Chinois parce que les États-Unis refusent de coopérer avec la Chine pour des raisons globales qui excluent le spatial à l'origine. Donc en fait, vous n'êtes pas dans une guerre froide. Vous êtes, si vous voulez, dans une forme de concurrence ou de compétition, mais avec des acteurs qui ont des capacités totalement différentes. Alors, je suis d'accord que la Chine rêve de poser un taïkonaute sur la Lune. Je ne suis pas sûre qu'elle soit en 2029, parce qu'elle a quand même beaucoup de chemin à parcourir. Bon, mais après, les États-Unis l'ont fait en 1969. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus se tromper d'échelle. Les États-Unis, c'est un budget de 60 milliards de dollars tous les ans. Et depuis 30 ans, ils sont les seuls à dépenser tout cet argent dans l'espace. Les seconds à dépenser, c'était les Européens, tout confondu, avec 10-12 milliards de dollars. Donc 6 fois moins, vous multipliez ça par 30 ans. Donc vous imaginez la différence énorme de moyens, de capacités, de compétences. Après, dans le spatial, vous pouvez faire un spatial très sophistiqué, très complexe, il n'y a qu'à voir les missions martiennes de la NASA avec un hélicoptère, etc. Ou des missions beaucoup plus simples, qui sont quand même très spectaculaires. Et on a effectivement une mission chinoise, bon, qui n'a plus l'air d'être très vivace aujourd'hui, mais qui à un moment a été la seule avec la mission américaine sur Mars.
Oui, donc, mais tout de même, Isabelle Schoenberger, est-ce qu'il y a, alors le mot à un moment doit être dit, est-ce qu'à un moment il y a un risque de conflit tout simplement dans l'espace? Quand on voit qu'en France, par exemple, aujourd'hui, l'armée a un corps spatial pour justement par rapport aux satellites qui doivent être protégés, est-ce qu'il y a un risque? En effet, on a vu aussi les Russes détruire un satellite depuis la terre ferme en envoyant un missile. Est-ce qu'il y a un risque en effet de conflit dans l'espace?
Alors, le commandement de l'espace, sa mission, c'est véritablement, effectivement, d'assurer la sécurité de nos opérations spatiales et de défendre nos satellites. C'est pas l'expression qui est utilisée, c'est la défense active. C'est-à-dire que vraiment, on est quand même dans l'idée que c'est une réponse à une attaque potentielle ou plus exactement une dissuasion. C'est-à-dire dire on a des moyens qui font que vous seriez bien inspiré de ne pas nous menacer. Bon, ça c'est la physionomie générale. Après, une guerre dans l'espace, je pense que ça supposerait d'imaginer ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que si vous reprenez les exemples anti-satellites que vous évoquez, mais les Américains en ont fait aussi, et le début de l'ère spatiale a été marqué par ces tirs à SAT des Américains et des Soviétiques qu'ils ont choisi ensuite d'interrompre un moment, parce que tout compte fait, ça présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Et pendant très longtemps, on est resté dans l'idée, à cause précisément de ce qu'était la guerre froide, du fait que les satellites étaient des moyens de garantir la dissuasion nucléaire. Donc c'était vraiment une idée de sécurité internationale. D'accord. Extrêmement forte. Et donc du coup, sanctuariser l'espace et considérer qu'il ne fallait pas toucher aux satellites des uns et des autres parce que ça garantissait le fond de la stabilité, c'était vraiment très important. Ça a commencé à basculer au moment où l'Union soviétique a commencé à décliner avec Reagan. Où là, effectivement, Reagan a annoncé sa fameuse guerre des étoiles. Mais aujourd'hui, un conflit dans l'espace, je dirais que tout le monde en serait victime et je ne vois pas bien qui en serait bénéficiaire.
Parce qu'on parle aussi de ça, parce qu'il y a aussi une chose qui peut être très concrète pour vraiment tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, ce sont les minerais, les fameux minerais sur les astéroïdes. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais Il n'y a pas de droit aujourd'hui, ça appartient à personne, Saint-Michel Tonini.
Alors, c'est pas de droit. Il n'y a pas de droit, bien sûr, mais il y a quand même des instituts qui se font, notamment au Luxembourg, pour faire des lois spatiales, donc c'est tout récent.
Aujourd'hui, si la Chine arrivait sur une météorite pour se servir, personne ne pourrait l'en empêcher.
Oui, mais il y a des milliards d'astéroïdes et de météorites, donc ils peuvent en prendre une s'ils veulent.
D'accord.
Il y en aura assez pour nous aussi.
D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'un conflit dans l'espace par rapport aux minerais, pour l'instant, n'est pas du tout, on peut imaginer, à l'ordre du jour.
Non, par contre, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir capturer des petits astéroïdes ou des petites météorites, les mettre en orbite autour de la Lune pour avoir notre réservoir de matières premières, puisqu'on va arriver à en faire défaut sur Terre. Donc on aurait nos réservoirs de matières premières autour de la Lune. Ce sont des projets qui sont très intéressants et qui sont étayés par la capacité d'adaptation dans l'espace de l'humain.
Et qui semblent complètement fantasmagoriques, là, vous dites.
Oui, mais ça a l'air fou aujourd'hui.
Oui.
Mais dans un siècle, ça sera la réalité.
C'est ça,
Hervé Poirier. Et là, dans les 10 ans à venir, il y a une quarantaine de missions qui vont aller vers la Lune. Sur la Lune, ça sera le premier qui sera arrivé dans un endroit, ça sera difficile pour quelqu'un de lui prendre la place. Donc il y a peut-être tous les endroits dans la Lune sont peut-être pas aussi intéressants en termes de trouver de l'eau. Il y a aussi quand même cette course pour aller aux meilleurs endroits en premier. C'est pas seulement planter le meilleur drapeau, c'est prendre les meilleurs endroits.
Ouais, exactement, Isabelle Sorbet-Serger.
Oui, cette histoire du drapeau, d'ailleurs, c'est intéressante. Au départ, on l'oublie, mais Kennedy avait proposé aux Soviétiques d'aller sur la Lune avec eux. Et il a fait un discours aux Nations Unies et bon, Khrouchtchev n'a pas réagi et c'était assez perfide de la part des Américains parce que très clairement, les moyens qu'ils étaient prêts à mettre, les Soviétiques n'étaient pas capables de les mettre. Mais il y a eu cette idée et c'est Nixon qui a proposé ce drapeau américain sur la Lune avec un discours ambivalent puisque c'était à la fois un grand pas pour l'humanité et en même temps un discours américain. Bon, mais ça, on est un peu habitué à ça. C'est une manière qu'ont les États-Unis de gérer la destinée magnifique. Sur les minerais, il y a une seule règle qui est très claire dans le traité de 67, c'est qu'on n'a pas, qui est le traité phare.
Alors c'est quoi alors, Il y a un traité, c'est ça qui a...
En 1967, on a 10 ans seulement après le premier satellite, après Sputnik, donc c'est très rapide pour du droit en particulier sur un nouveau domaine, on s'est entendu sur un certain nombre de grands principes. Et dans ces grands principes, il y a la non-appropriation. Vous n'avez pas le droit de considérer que vous avez une propriété sur quelque chose. Alors aujourd'hui, pour les minerais, les États-Unis disent on n'est pas propriétaire de l'astéroïde, on l'exploite. C'est différent.
Ben oui.
Et il y a des images qui sont plus ou moins précises avec quand on pêche dans la mer le poisson, etc. Bon, c'est quand même très débattu sur le plan juridique. Mais la vraie question qui se pose, même si je suis d'accord avec vous, le pôle sud de la Lune, ça intéresse beaucoup de monde parce que
il y a de l'eau. C'est là où il y a de l'eau. Hein,
parce qu'il y a de l'eau tout à fait au fond du cratère et puis parce qu'il y a capacité quand même sur le bord du cratère à récupérer de l'énergie solaire pour fonctionner, etc. Mais malgré tout, on peut aussi imaginer, on peut être un petit peu plus optimiste et imaginer une forme de solidarité. C'est-à-dire que quand vous allez être isolés sur la Lune les uns et les autres, on peut aussi concevoir que, à la mode de l'Antarctique, vous allez passer des accords de solidarité. Il y a un accord sur le sauvetage des astronautes. Par exemple, les astronautes sont considérés dans le droit international, comme des envoyés de l'humanité, et tout le monde doit leur porter assistance.
Ah oui.
Donc j'imagine quand même que l'intérêt économique sur la Lune, on va dire que selon les dernières études, c'est quand même après des années d'investissement public qu'on pourra imaginer de retirer du revenu privé. Donc on peut espérer que d'ici là, on aura su mettre en place des cadres de coopération.
Alors,
aussi.
Pour être très concret, Michel Tonini, on nous parle donc de base lunaire, il y aurait déjà un endroit, en effet, près de l'eau, il faut trouver bien sûr de l'eau. Le calendrier aujourd'hui, donc tout à l'heure vous nous avez dit la Chine, pourquoi pas 2029, mais les Américains disent 2025 avec une femme, voilà, pour fouler, ce serait la première femme à fouler le sol lunaire, 2025, vraiment, c'est réaliste.
Alors, la prochaine mission Artemis 2 tourne autour de la Lune, mais ne se pose pas sur la Lune.
Voilà.
C'est la mission Artemis 3 qui va se poser sur
la Lune. Et ça, 2025 ou pas?
Alors ça, c'est après, un peu plus tard.
Plus tard.
2026. Pour l'instant, il n'y a pas d'atterrisseur lunaire.
D'accord.
On peut faire le tour de la Lune avec le vaisseau, mais il n'y a pas de vaisseau pour se poser sur la Lune.
D'accord.
Ça n'existe pas. Le vaisseau, ça dépend de Starship qui est en essai aujourd'hui. Donc là, il y a un manque de ce côté-là dont pourraient bénéficier les Chinois, bien sûr, parce qu'eux, ils ont un système qui est beaucoup plus simple.
D'accord.
Ils n'ont pas une fusée récupérable, ils ont une fusée légère, un système un peu à la Apollo.
D'accord. Et donc l'idée, donc, c'est d'aller donc sur la Lune faire une base, en fait, de construire une base scientifique pour ensuite servir de base de lancement pour Mars, en fait.
Alors l'idée aujourd'hui, c'est pas d'avoir une base sur la Lune.
Je vais un peu vite. Hein,
c'est une base qu'on appelle le gateway, donc la passerelle autour de la Lune, une station autour de la Lune, et de cette station, on pourrait se poser sur l'endroit qui nous intéresse sur la Lune. Au moment où on en a besoin, mais pas pour y rester en permanence. La permanence sur le gateway, c'est une station autour de la Lune.
Très bien, d'accord.
Une station qui est une station qui est un peu pas orbitale, mais qui est vraiment excentrée, de manière à qu'on puisse se poser quand on veut à un endroit spécifique de la Lune.
D'accord.
Et après, il y aurait une base lunaire. Mais on ne va pas partir de cette orbite-là pour aller sur Mars. L'idée, c'est toujours l'idée de Von Braun, faire un petit train en orbite basse terrestre et partir de l'orbite basse terrestre vers l'orbite martienne, qui aujourd'hui n'est pas vraiment le scénario utilisé, parce qu'aujourd'hui, on veut faire le single shot to moon.
C'est-à-dire
lancer directement de la Terre vers la Lune, vers l'orbite lunaire.
D'accord.
Alors que si on veut aller sur Mars, il faut passer par une orbite autour de la Terre, rejoindre par un tug qu'on appelle un remorqueur une orbite martienne. C'est le scénario de Von Braun, de 49.
Finalement, c'est la même chose que les scénarios routiers quand on part en vacances, presque. Hein, voilà, ce que vous nous racontez.
Hein, bison futé.
Exactement. C'est ça, sauf que c'est la Lune. Allez, on continue à parler, bien sûr, de la conquête spatiale avec vous, et notamment aussi de ces acteurs privés, de bien tous les petits problèmes qu'il y a autour de la conquête spatiale. On en parle dans un instant. Ça sera juste après Lucy Antunes. It's amazing.
It's amazing, isn't it? I want to ring the bell. The bell. It's amazing, isn't it? I want to ring the bell. The bell. It's amazing.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
France Inter, on parle de conquête spatiale, l'engouement autour de la conquête spatiale avec Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace. Également Michel Tonini, ancien astronaute français. Vous avez été dans l'espace avec la station spatiale russe Mir en 1992 et avec la navette américaine Columbia en 1999. Et Hervé Poirier, fondateur du magazine scientifique aussi Epsilon. Alors forcément, Hervé, il y a toujours une question là qui revient beaucoup chez nos auditeurs. Vous pouvez nous laisser sur l'appli France Inter pour vos notes vocales et vos messages. C'est est-ce que dans cette époque de sobriété aujourd'hui, la conquête spatiale, c'est pas quelque chose qui nous paraît totalement délirant au niveau des coûts, au niveau de la pollution que ça engendre? On a parlé aussi d'autres pollutions satellitaires cette fois-ci. Est-ce que c'est pas complètement, ça nous fait rêver et en même temps ça nous paraît loin des préoccupations de l'époque aussi?
Oui, assurément. Il faut aussi voir que l'écologie est née de aussi du regard qu'ont eu les astronautes quand ils se sont retournés vers la Terre pour voir la fragilité de et la finitude de ce monde. C'est quand même frappant que tous les astronautes, Michel Tonini pourrait en témoigner, qu'on envoie pour aller voir l'espace, ils passent la majeure partie de leur temps à regarder la Terre.
Bien sûr.
Et donc il y a une l'astronomie a aidé après la prise de conscience écologique. À la fin d'Apollo, à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu ce mouvement très violent, que vous dites, où il y a eu un rejet.
Ah, il y a eu un rejet à l'époque.
Du grand public, quelques jours après avoir posé le drapeau, il y avait les grandes manifestations antimilitaristes, anti-technologiques, oui, avec les riffs de Jimi Hendrix, et ça a sonné la fin un peu du rêve spatial pendant 20, 25, 30 ans. Avec cette conscience écologique qu'il va falloir plutôt, il n'y a pas de plan B, plutôt qu'aller voir ailleurs, notre maison brûle. Donc ça a été le début de ça. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on soit à se dire c'est l'un ou l'autre. Le programme spatial est aussi, je pense que Isabelle Berger pourra en parler, un espace de coopération peut-être dans les décennies à venir entre les grandes puissances. Donc peut-être un espace comme on disait, c'est peut-être le drapeau de la Terre qu'il faudra aller poser sur la Lune. Et donc il y a quand même dans la conquête spatiale un espoir de concorde. Donc, concorde qui n'est la seule moyen, sans doute, de résoudre les problèmes écologiques, car le problème écologique est fondamentalement international. Donc, il y a des accointances.
Justement, Michel Tonini, il y a Laura, là, sur l'appli France Inter, qui nous dit ça, et ça, on l'entend souvent aussi. Vous qui avez volé, alors peut-être, nous sommes face à une crise climatique et de la biodiversité bien connue. Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser une partie des budgets faramineux pour lutter contre ce changement climatique? Est-ce que finalement, c'est concevable encore aujourd'hui d'avoir ces politique dans l'espace spatial, quand on voit les besoins financiers, quand on voit par exemple en France, il faudra 66 milliards chaque année pour adapter les entreprises au changement climatique?
Alors je dirais deux choses, deux réponses. La première, c'est que l'espace pour nous, la France, c'est 1 euro par an, par Européen, par Français, pour ce qui est des vols habités.
D'accord.
1 euro. Ça vous coûte 1 euro.
D'accord.
Deuxièmement, le film Don't Look Up. C'est-à-dire que si un jour on a une menace qui peut arriver, on n'est pas à l'abri d'une menace d'un choc, d'un immense astéroïde, comme c'est arrivé dans le golfe du Mexique, ou un plus petit, ça peut arriver aussi, on n'a rien pour se protéger. Donc le but, et on travaille dessus d'ailleurs avec des astronautes de la NASA, c'est d'aller un jour être capable de détecter les astéroïdes ou de les intercepter, de les dévier de la Terre.
C'est-à-dire pour sauver la Terre aussi.
Pour sauver la Terre.
C'est ça, Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, alors il y a cette lutte contre les géocroiseurs, mais avant, il y a quand même surtout le fait que les satellites, ce sont eux qui nous permettent de mesurer les évolutions du changement climatique. Et si vous regardez aujourd'hui sur France Inter, depuis deux jours, vous êtes en train d'expliquer que l'observatoire européen Copernicus prouve qu'on a eu le mois de juillet le plus chaud
depuis, etc.
Or, les satellites, c'est vraiment un moyen de collecte extraordinaire parce que vous garder la mémoire de ce qui se passe. Alors, on a encore beaucoup de progrès à faire pour que toutes les mesures soient comparables, pour savoir exactement comment on analyse et quels facteurs on analyse. Mais de toute façon, la seule chance pour comprendre le mécanisme d'évolution du climat, la meilleure chance qu'on ait, c'est le spatial. Donc, il ne faut pas mélanger. On a les vols habités et l'exploration, on a l'économie avec les télécoms, etc. Mais au passage, quand même, les télécoms spatiales, c'est le seul secteur qui rapporte de l'argent dans l'espace. Mais si vous comparez comparez la part du spatial avec la part du terrestre dans les investissements des télécoms, vous vous rendez bien compte que la 5G, c'est beaucoup plus en réalité que tout ce que peut gagner Elon Musk.
Et nous sommes toujours dans le look-up parce qu'on ne pourrait pas se passer de notre portable.
Oui, mais enfin ça, à la limite, on pourrait sans doute s'ébrouiller autrement. Ce que je veux dire, c'est que véritablement, sur le changement climatique et sur la gestion de la planète Terre, le spatial, c'est le meilleur des outils qu'on ait. Et puis, les missions, on n'est pas obligé de faire des missions très chères. Artemis, dans toute sa grandeur, on va dire, américaine, c'est 10 milliards de dollars. Mais la mission indienne, qui elle aussi va arriver sur la Lune, théoriquement, vers le 24 ou le 25 août, c'est 470 millions. Donc, c'est vraiment des sommes qui n'ont absolument rien à voir. Les Indiens disent, et ils en sont très fiers, qu'ils ont fait une mission autour de Mars pour moins cher que le film Gravity.
Ah oui, d'accord.
Donc, si vous voulez...
Et qui s'est mieux passé, en plus.
Voilà. Disons que les effets, on va dire qu'au final, les ventes de pop-corn ne sont pas les mêmes. Mais l'un dans l'autre, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger les enjeux. Il y a un enjeu de l'espace pour la Terre, il y a un enjeu de l'espace pour l'exploration, et là on est dans des registres différents, mais qui sont complémentaires.
Alors, je voulais vous faire écouter justement une note vocale laissée à propos aussi de l'aigle scientifique dont vous nous parliez tout à l'heure, Michel Tonini, c'est Corentin. Il a laissé cette note vocale donc sur l'appli Inter, on l'écoute.
Moi je voulais parler un petit peu de la conquête spatiale sous le prisme de la recherche. On sait que grâce à la NASA, depuis les années 50, on a fait pas mal de grandes découvertes scientifiques qui se sont notamment retrouvées dans le quotidien, mais qu'on a aussi perdu des secrets de fabrication avec la disparition d'ingénieurs qui ont été trop âgés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la recherche scientifique par rapport à l'espace? Merci.
Et voilà Corentin qui nous a laissé sa note vocale sur l'appli Inter. Michel Tonini, en effet, est-ce qu'on l'a vu au niveau du réchauffement climatique, à quel point c'est important les satellites? Est-ce qu'aujourd'hui, l'espace nous fait avancer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, concrètement sur des découvertes scientifiques qui peuvent nous aider dans la vie au quotidien?
Complètement, bien sûr. On travaille tout le temps sur des expériences scientifiques. Aujourd'hui, dans la station spatiale, chaque astronaute a un panel de 100 expériences scientifiques à faire sur 6 mois environ, dans différents domaines, sciences de la vie, physiologie, sciences des matériaux, fabrication de médicaments dans l'espace, par exemple. C'est un domaine qu'on appelle la croissance de protéines de cristal. Et donc, il y a beaucoup de domaines qui rapportent, bien sûr, et ces échanges sont faits au niveau mondial. Il y a l'Académie des sciences mondiales qui permet d'échanger sur tous les résultats que nous avons. Donc, il y a des spin-out, des spin-offs régulièrement sur ce que nous faisons dans l'espace.
Hervé Poirier.
Bien sûr, il y a de la recherche à l'ISS, mais comment dire, si vraiment c'était l'avancée des recherches scientifiques pour profiter de la microgravité, le plus simple, ce serait quand même de se passer des humains. La robotisation permettrait de faire des avancées beaucoup moins chères, beaucoup plus rapides, mais... Donc il y a quand même un mélange entre des enjeux symboliques et des enjeux scientifiques. Le but de l'ISS n'est quand même pas de faire avancer la science. Si c'était vraiment le but, on trouverait des moyens qui seraient peut-être moins inspirants, moins riches pour l'imaginaire, et qui ne nous ramèneraient pas des héros comme Thomas Pesquet qui après nous fait rêver. Mais Thomas Pesquet, avec tout le respect que qu'on peut avoir pour quelqu'un qui inspire tant de gens... C'est pas les avancées scientifiques qu'il a permis quand il faisait pas du saxophone qui justifie son envoi.
Je suis pas d'accord.
Dites-le pourquoi vous êtes pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord parce qu'en fait chaque panel d'expérience a une continuité. Donc Pesquet a pris des expériences que nous avions dans le module Columbus, qui est notre maison scientifique européenne, et il fait des expériences qui ont été faites avant par d'autres astronautes. Donc il y a un suivi qui est fait au total. Et quand vous dites par exemple que ça serait mieux de faire une mission automatique, c'est vrai, mais il y a des réglages à faire. Par exemple, la croissance de cristaux de protéines, et on ne peut pas la faire de façon rapide. Il faut faire des réglages, et les réglages, c'est l'humain qui va le faire, parce que l'humain, ça reste une merveilleuse machine cognitive que le robot ne sait pas faire.
On n'est pas comme dans 2001, en effet, où l'ordinateur prend le pas, pour l'instant. Isabelle,
je pense que votre auditeur, il pensait aussi à autre chose, ce sont les sciences spatiales. C'est-à-dire que les échanges physico-chimiques, terre, océan, atmosphère, c'est une magnifique, c'est un magnifique domaine de recherche, et de recherche fondamentale, et de recherche appliquée. Et donc je pense que, oui, on a perdu un certain nombre de compétences, mais ça c'est vrai dans tous les domaines, il y a toujours un moment où effectivement les premiers scientifiques meurent et de nouveaux scientifiques apparaissent. En revanche, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est par exemple de voir l'utilisation, la nouvelle fusion de l'intelligence artificielle à bord de satellites de télé détection, de la capacité à faire de la prévision, etc. Donc je pense que le domaine scientifique spatial, il gagnerait à recruter. Et en tant que CNRS, je dirais que par exemple des grands instituts comme l'IRAP à Toulouse, on a des scientifiques qui conçoivent des instruments, qui partent sur des missions chinoises, qui partent sur des missions indiennes, sur des missions américaines, qui auraient dû partir sur des missions russes. Et ça, c'est quand même aussi un point très important de l'activité spatiale, c'est la science spatiale.
Alors, avec Proye, rapidement. Oui.
Non, mais je suis bien sûr d'accord, mais si on veut aller sur Mars pour des questions purement scientifiques, le plus simple, si vraiment c'est le but, ça serait quand même des robots. Ça serait, enfin, vouloir amener des humains sur Mars, c'est vouloir faire de la randonnée avec un sac à dos de plusieurs tonnes.
Avec Poirier, à propos de Mars, en effet, on a tous en tête hein, Matt Damon qui fait pousser des salades sur Mars parce qu'il avait été abandonné.
Pommes de terre
sur Mars, pardon, parce qu'il a abandonné. Voilà, Michel Tonini, vous êtes prêts en tout cas, vous, pour vos pommes de terre. On va entendre justement une note vocale laissée par Christian. Alors lui aussi, pour lui, cette conquête spatiale, est-ce qu'il faut chercher le but, une planète B à un moment aussi? Ça fait partie de l'imaginaire. Lui et Christian, pour lui, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose, on l'écoute.
Après des milliers d'années, le corps humain n'est compatible qu'avec un environnement terrestre. Au-delà des défis technologiques énormes, il n'est pas fait pour vivre dans des conditions de confinement sans générer de très graves séquelles sur le métabolisme. Je considère que c'est une hypocrisie que de faire croire aux gens que l'humanité pourra émigrer sur une autre planète.
Alors Michel Tonini, il y a deux questions dedans. Est-ce que, un, c'est toujours le cas aujourd'hui, est-ce qu'on recherche une planète, comme dans le film Interstellar qu'on a vu de Christopher Nolan, on va chercher une planète pour l'habiter? Et deux, en effet, est-ce qu'on pourrait ne pas, l'espace humain ne pourrait pas habiter une autre planète?
Mais il est certain que dans 2-3 siècles, nous irons traverser pour aller dans d'autres étoiles, dans d'autres exoplanètes. Je suis certain qu'on va dépasser notre système solaire. On aura des combustions beaucoup plus efficaces, on ira beaucoup plus loin. Et aussi, un jour, malheureusement, le Soleil va disparaître. Donc, il faudra que l'humain sache s'en sortir pour aller émigrer vers une autre planète. Donc, c'est sûr. Par contre, sur la question qui vient d'être posée, sur l'adaptation, je ne suis pas d'accord parce que l'humain a des capacités d'adaptation qui sont incroyables. Et ça, c'est vraiment la chose que l'on découvre en dehors de la fragilité de la Terre, c'est que sur soi-même, on est vraiment surpris de notre adaptation, c'est-à-dire que tout votre corps va changer, la tête va renfler, les jambes vont diminuer, le cœur va changer de forme, tout va changer dans votre corps, et vous vous habituez, et ça paraît naturel en bout de quelques jours. Donc on a des facultés d'adaptation qui sont extrêmement fortes. C'est ce qui en fait que nous sommes la meilleure machine cognitive pour aller faire de l'exploration par rapport au robot. Même si le robot est pas cher, le robot il va faire quelques kilomètres en 10 ans, alors que l'humain va faire 50 kilomètres en une semaine.
Rapidement, Hervé Poirier, est-ce que aujourd'hui la volonté d'aller chercher une planète B, comme on dit, est-ce que c'est toujours dans la tête de certains ingénieurs?
Bah écoutez, le satellite JWST qui a été envoyé il y a quelques mois a pointé avec beaucoup d'attention le système habitable le plus prometteur. Et pour l'instant, il y a 7 planètes. Sur les 2 premiers sur lesquels on espérait voir une atmosphère, non, il n'y en a pas. Ce qui se dégage quand même, c'est l'étonnante rareté de l'habitabilité autour de nous. L'espoir de rendre habitable une planète qui ne l'est pas, je pense qu'on est largement dans la science-fiction, et l'espoir de trouver une planète habitable compatible avec le corps humain, je pense qu'on est peut-être encore plus dans la science-fiction. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de planète habitable. Il y a un espoir encore, il y a 5 planètes au cours de Trappist, et c'est vraiment le seul lieu où il serait peut-être envisageable dans plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, d'aller voyager. C'est à tellement d'années-lumière que je pense que ce n'est pas très sérieux. Mais pour l'instant, on la cherche, la planète habitable.
C'est ça, Isabelle Sorbès-Verger. Très rapidement, on la cherche encore et ça reste dans la tête de chacun, même si ce n'est pas l'obsession, mais quelque part.
Oui, joker, moi, je ne suis certaine de rien. En revanche, je pense qu'on peut vraiment se servir de tout ce qu'on apprend dans l'espace pour s'adapter et pour essayer d'améliorer notre planète. Et ça, je crois que c'est vraiment peut-être aussi un point important de la conquête spatiale, c'est protéger aussi notre planète bleue.
Allez, vous pourrez réécouter cette émission, bien sûr, même si vous êtes dans la station Mir hein, sur le site France Inter. Merci Isabelle Sourbès-Verger, Hervé Poirier, Michel Tenier d'avoir participé. Merci à Étienne Bertin à la réalisation, à Jérôme Ragano à la technique, Constance Villanova à Louis Nollet, Mathilde Texier, Savannah Rouedan et Pierre de Saterne pour la préparation. Le débat de midi revient demain.